Au micro, Idrissa Seloudia. Les dirigeants des pays les plus industrialisés du monde se réunissent en urgence ce jeudi pour tenter d'apporter une réponse coordonnée à la pandémie de coronavirus qui, selon l'ONU, menace l'humanité tout entière malgré des mesures de confinement sans précédent affectant plus de 3 milliards de personnes. La maladie a déjà fait 20 600 morts sur plus de 450 000 cas recensés dans le monde. Avec deux tiers des victimes, l'Europe paie le plus lourd tribut. L'Espagne a dépassé la Chine en nombre de morts. C'est toutefois aux États-Unis que la contagion progresse le plus rapidement avec plus de 62 000 cas, dont près de 55 000 détectés au cours de la semaine écoulée. On déplore plus de 1 000 morts. Et ici à Washington, le Sénat a approuvé mercredi à une majorité écrasante un plan historique de 2 000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale asphyxiée par le coronavirus. À Moscou, le président russe Vladimir Poutine a recommandé mercredi à ses concitoyens de rester chez eux, décréter une semaine chômée et reporter le vote sur sa réforme constitutionnelle sans ordonner pour le moment le confinement de la population. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé mercredi un couvre-feu nocturne dans tout le pays, ainsi que la fermeture des frontières terrestres. Un peu plus tôt, les autorités avaient annoncé avoir enregistré les deux premiers cas confirmés de coronavirus dans le pays sur deux Maliens rentrés de France mi-mars. Le président Keïta a également indiqué que les élections législatives auraient bien lieu dimanche comme prévu. A signaler à ce sujet, toujours au Mali, que l'URD, le parti de l'opposant Soumaïla Cissé, a annoncé hier que l'ancien candidat à la présidence et sa délégation en campagne pour les législatives dans la circonscription de Niafonké ont été portés disparus mercredi. Personne n'a pu les joindre sur leur téléphone, selon l'URD. En République démocratique du Congo, le gynécologue congolais et prix Nobel de la paix Denis Mukwege a déclaré qu'il faut se préparer au pire dans ce pays car les Congolais n'ont aucune idée de l'ampleur de la propagation du coronavirus. Mercredi, dans un message de prévention et de soutien aux premières mesures prises par les autorités, le docteur Mukwege a souligné que la prévention reste le meilleur moyen d'enrayer la propagation du virus. Au Sénégal, des défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé mercredi les excès de violence imputés sur les réseaux sociaux aux policiers chargés de faire respecter le couvre-feu nocturne décrété par le président Macky Sall. La police a assuré dans un communiqué que ces abus avaient été sanctionnés sans autre précision. 13 nouveaux cas de coronavirus ont été officiellement confirmés mercredi au Sénégal, portant le total à 99. 9 patients ont été déclarés guéris et aucun décès n'est à déplorer. En Afrique du Sud, 2 personnes atteintes du coronavirus ont été inculpées de tentative de meurtre pour ne pas avoir respecté leur quarantaine de 2 semaines, a annoncé mercredi le ministre de la Police. L'épidémie de COVID-19 se propage très rapidement en Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent. Le ministre de la Santé a recensé mercredi 709 cas confirmés contre 554 24 heures plus tôt. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis ont condamné mercredi les violences liées au référendum constitutionnel dimanche en Guinée, violences qui ont fait une trentaine de morts selon l'opposition et ils ont critiqué le pouvoir. Le collectif qui mène la fronde contre le changement de la constitution voulu par le président Alpha Condé fait également état de centaines de blessés par balle. Les autorités, elles, parlaient mardi de 6 morts, dont 2 dus à un accident et un problème de santé, citation. Le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Tchambas, a de son côté fait part de sa grande préoccupation. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Je cède maintenant l'antenne à Abdourahmane Dia.
Merci Idrissa. À présent, le reste de l'actualité. L'Afrique compte désormais 2432 cas de coronavirus et 64 décès. Le Mali et la Libye ont signalé leur premier cas de coronavirus. Dans ces deux pays, la guerre renforce les inquiétudes sur les limites des systèmes sanitaires. Claire Morin-Jubourg.
Avec zéro patient déclaré, le Mali et la Libye faisaient figure d'exception, mais les deux pays ont annoncé leur premier cas confirmé. Le premier ministre malien Boubou Cissé dit se préparer au pire. Après des années d'attaques djihadistes et de violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts, des régions entières sont inaccessibles aux services de l'État. En Afrique du Sud, pays le plus touché sur le continent, le nombre de contaminations est passé à 709 cas contre 554 la veille. Le pays commence ce jeudi à minuit un confinement national pour 3 semaines. Le président libérien George Weah a chanté mercredi un texte écrit par ses soins pour sensibiliser la population à la lutte contre le coronavirus. Le Libéria a officiellement déclaré 3 cas et interdit les voyages à destination ou en provenance des pays les plus affectés. Des pays comme le Botswana, le Malawi, le Lesotho, les Comores, le Soudan du Sud et le Burundi n'ont pour le moment déclaré aucun cas.
Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, critique le rôle de l'Arabie saoudite et de la Russie dans la chute actuelle des cours du pétrole en pleine épidémie de coronavirus. Nathalie Barche.
L'Arabie saoudite, qui inonde le marché en dépit de l'effondrement de la demande, agit pour des considérations politiques et diplomatiques, estime Fatih Birol. La Russie, qui a refusé de nouveaux accords avec l'OPEP, joue à la roulette russe pour terrasser la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Mais cela ne marchera pas, selon le chef de l'Agence internationale de l'énergie. Monsieur Birol voit soit une relance économique généralisée après la pandémie, soit un accord des grands pays producteurs pour stabiliser la production. Les cours du pétrole se sont effondrés avec la pandémie du nouveau coronavirus, mais aussi en raison de l'incapacité des pays producteurs à s'entendre. Ils évoluent actuellement sous la barre des 30 dollars le baril. Dès le début de la crise, l'AIE avait exprimé sa crainte d'impacts économiques pour les pays producteurs les plus vulnérables, comme l'Irak, l'Angola ou le Nigeria.
Et puis en Algérie, la Cour d'appel d'Alger a condamné 2 ex-premiers ministres de l'ère Bouteflika, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, respectivement, à 15 et 12 ans de prison ferme à l'issue d'un procès sans précédent pour corruption. Ekiabadou.
La Cour d'appel a confirmé les sentences prononcées le 10 décembre contre Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Les deux condamnés ont 8 jours pour se pourvoir en cassation. C'est un verdict injustifiable selon un de leurs avocats. Tant que la justice est instrumentalisée, on ne peut pas s'attendre à autre chose, a critiqué Maître Khaled Bourayou, l'avocat qui va se pourvoir en cassation. La Cour d'appel a en revanche allégé des peines infligées à d'anciens ministres et patrons algériens impliqués dans un scandale automobile et accusés de financement illégal de la dernière campagne du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Le financement de la campagne a occasionné une perte au trésor public estimée à plus de 830 millions d'euros, selon le procureur. D'autres procès attendent certains des accusés cités dans des volets de vastes enquêtes relatives à des faits présumés de corruption ouvertes depuis le départ du président Bouteflika.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique vous est présentée dans la Minute Éco par Nani Talani.
Le Kenya demande une aide d'urgence du FMI à hauteur de 350 millions de dollars pour soutenir son budget face à la crise du coronavirus. Ces fonds lui permettront non seulement de s'acquitter de ses dettes auprès des fournisseurs, mais aussi de rembourser aux entreprises la TVA. Selon le gouverneur de la Banque centrale, Patrick Djorongé, le pays aura aussi besoin de 750 millions de dollars supplémentaires. Les autorités kényanes entendent faire appel à cet effet à la Banque mondiale. Le Kenya s'attend à ce que la collecte de ses recettes soit affectée par le ralentissement des importations et de la consommation intérieure à cause de l'épidémie en cours. Plus de 15 000 infirmiers zimbabwéens ont entamé mercredi une grève. Ils protestent contre le manque d'équipements qui les aideront à lutter contre la pandémie de coronavirus, a annoncé la ZINA, l'Association des infirmiers du Zimbabwe. La ZINA exige des autorités, des équipements de protection adaptés, l'accès à l'eau et une prime de risque dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Les médecins de l'hôpital central de Harare, l'un des plus importants du pays, menacent de leur emboîter le pas pour les mêmes raisons. Pour terminer, le constructeur automobile américain numéro 2 Ford arrêtera temporairement la production de véhicules et de moteurs dans ses usines en Afrique du Sud, en Europe, en Inde, en Thaïlande et au Vietnam, en réponse à l'impact croissant du coronavirus.
Yacouba Wetraogo qui nous présente la page des sports.
Bonjour à tous. Nous faisons connaissance aujourd'hui avec Abdelmounaïm Ba, le nouveau secrétaire général par intérim de la CAF. Le Marocain a été nommé le 3 mars en remplacement de son compatriote démissionnaire Mouad Hadji. Qui est Abdelmounaïm Ba? Il nous le dit lui-même.
Pour faire bref, je suis Abdelmounaïm Ba, 39 ans. J'ai rejoint la CAF il y a 2 ans en tant que directeur marketing, qui est devenu ensuite directeur commercial. Avant cela, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Lagardère Sport. Et comme vous le savez, depuis la démission de l'ancien secrétaire général, j'assure l'intérim jusqu'au prochain comité exécutif.
Abdelmounaïm Ba a pris ses fonctions de secrétaire général par intérim, et ce jusqu'à la prochaine réunion du comité exécutif de la CAF. Il continue d'assurer aussi ses occupations de directeur commercial, à laquelle il a été nommé en juin 2018. Comment il tient tout cela, Abdelmounaïm Ba?
C'est clair qu'aujourd'hui, je cumule les deux postes, mais ça se fait de façon assez naturelle. Je m'appuie bien évidemment sur toutes les équipes en place, notamment le secrétaire général adjoint Anthony Baffo, l'ensemble des directeurs, l'ensemble des chefs de service. Pour le coup, le travail est assez fluide.
La grosse actualité du football africain, c'est le report du CHAN 2020, initialement prévu du 4 au 25 avril au Cameroun, qui accueillera également la prochaine CAN 2021, foi du nouveau secrétaire général par intérim de la CAF.
Aujourd'hui, c'est clair que le CHAN et la CAN se joueront au Cameroun. La question, c'est quand. On essaiera autant que possible, comme je l'ai indiqué dans mon précédent message, de jouer le CHAN en 2020 et la CAN en 2021. Mais concernant les dates, aujourd'hui, rien n'est à exclure et tout dépendra de l'évolution de la situation, et notamment sur notre continent.
Abdelmounaïm Ba, secrétaire général par intérim de la CAF, au micro d'Amine Birouk, notre correspondant au Maroc. Toujours sur le continent, avec la découverte de 2 cas de contamination au coronavirus, le ministre malien de la Jeunesse et des Sports appelle à la vigilance.
Chers jeunes du Mali, supporters et amis sportifs, l'heure est grave. Le coronavirus gagne du terrain chaque jour dans le monde et aucun médicament homologué n'existe à ce jour contre ce mal. L'unique solution reste la prévention. C'est pourquoi des recommandations sont faites par les plus grands spécialistes en santé publique du monde en matière de prévention. S'il vous plaît, respectez-les scrupuleusement.
Modibo Haruna Touré, ministre malien de la Jeunesse et des Sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Et on démarre par le Tchad. Le gouvernement continue d'annoncer des mesures préventives contre le Covid-19. Après la fermeture des établissements d'enseignement, des bars et des alimentations, des lieux de culte, le regroupement de plus de 50 personnes, c'est au tour des marchés d'être fermés pour éviter la propagation de la pandémie. Certains commerçants en profitent pour faire la spéculation des prix des produits de première nécessité. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, nous fait le point depuis N'Djamena.
Franchement, c'est pas normal que nos frères tchadiens profitent de telles situations et puis ils augmentent les prix là au marché. Ça, ce n'est rien que l'escroquerie pure et simple qui ne dit pas son nom.
C'est le cri d'alarme d'un consommateur au sud du Tchad. Cette flambée de prix est l'une des conséquences des mesures prises par le gouvernement fermant les marchés. Le président Idriss Déby Itno met en garde les commerçants qui augmentent de façon vertigineuse les prix des denrées alimentaires. Cette pratique est inadmissible, dit-il.
Nombre d'opérateurs économiques, patrons de restaurants, les tenanciers des bars et d'autres commerces subissent des dommages incalculables suite à l'arrêt conjoncturel de leurs activités. Je voudrais cependant déplorer le comportement de certains commerçants. Vous verrez qu'ils se livrent à une pratique inadmissible en augmentant illégalement les denrées de première nécessité. J'instruis fermement les services compétents à l'effet de traquer et de traduire en justice tous les commerçants mis par la part du gain facile. Les opérations de surveillance et de prix doivent s'intensifier sur toute l'étendue du territoire pour mettre fin à cette pratique.
Vu la gravité de cette situation, certains consommateurs affirment à VOA Afrique qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs.
Bien sûr que ça va être trop compliqué, mais on est obligé d'admettre.
Ce sont des mesures de précaution et donc j'appelle toute la population de pouvoir respecter ces ordres pour notre sécurité quoi. Si seulement ils ferment les restaurants, les marchés, mieux qu'on meurt tous.
C'est pour notre santé donc moi j'accepte.
Pour l'universitaire Dr Sitak Yombatina à Beni, le gouvernement doit penser aux mesures d'accompagnement avant de s'en prendre aux commerçants qui font de la spéculation.
Le coronavirus pour moi, je pense, c'est d'abord la pauvreté. Vous avez des gens qui, même sans coronavirus, même sont en train de mourir parce que justement, ils vivent le jour au jour. Alors si vous prenez des mesures qui ne sont pas cohérentes, vous accentuez encore, n'est-ce pas, la précarité. Un gouvernement devrait plutôt mettre en place un plan de sauvetage, dire clairement, n'est-ce pas, aux commerçants qu'est-ce que l'État peut faire pour les aider. À ce moment-là, vous allez voir que c'est eux-mêmes qui vont se discipliner. Et même ces gens qui pleurent parce qu'on est en train de fermer le marché, s'ils savent qu'il y a des mesures d'accompagnement et que ça peut les aider, n'est-ce pas, à sortir, n'est-ce pas, de leur précarité, vous verrez que c'est eux qui vont devenir, n'est-ce pas, des remparts, comme l'a dit le président de la République, contre, n'est-ce pas, le virus.
La lutte contre le Covid-19 pénalise également les détenus préventifs qui attendent d'être situés sur leur sort. Toutes les audiences publiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, sauf les audiences des flagrants délits. André Kodumadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique à Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
La plupart des pays africains ont suspendu des vols, fermé des écoles et interdit les grands rassemblements pour contenir le Covid-19. Et ils examinent de près les politiques de confinement. Mais si certains pays d'Afrique de l'Ouest prennent des mesures préventives strictes, d'autres ignorent le danger que représente la pandémie de coronavirus. Davantage d'explications avec Lionel Gaïma.
Le Cameroun a récemment fermé ses frontières terrestres, aériennes et maritimes pour une durée indéterminée. Les écoles et les universités ont été fermées pour enrayer la propagation du coronavirus. Certains enfants s'en servent comme excuse pour errer dans les rues et acheter des sucreries dans la boutique de Florence Awa.
Lorsque les enfants jouent ensemble, ils peuvent être infectés par leurs amis porteurs du virus. Il est donc tout à fait normal de suspendre les écoles jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé, ce qui empêchera la transmission, en particulier chez les enfants.
Mais en général, les Camerounais de Douala se disent d'accord avec les mesures, même si elles ont un impact fondamental sur leur vie et menacent peut-être leurs moyens de subsistance. La gare routière de la ville accueille normalement des centaines de voyageurs chaque jour. Pour les commerçants, l'arrêt de transport ralentit les affaires. Ils craignent de perdre une partie de leurs revenus, surtout si l'arrêt dure longtemps. Enao Manor travaille comme porteur à la gare routière.
Si le pays entier ferme et que je ne puisse pas travailler ici pendant un certain temps, je serai très affecté. Je dois travailler ici tous les jours pour faire vivre ma famille. Pour l'instant, notre seul espoir est que Dieu nous aide à mettre fin à ce virus car maintenant nous sommes impuissants.
Les bars, les restaurants et les débits de boissons doivent fermer après 18 heures. Bien qu'ils puissent fonctionner pendant la journée, Ces commerces gagnent la plupart de leurs revenus la nuit. Mais la crainte de la propagation du coronavirus dans un pays où le système de santé est vulnérable et surchargé inquiète beaucoup de gens comme Nono Arnold qui sirote sa dernière bière avant la fermeture.
Et par rapport à la décision du gouvernement, à ce qu'ils ont dit, à décider de fermer les bars à plus de 18 heures, donc moi je trouve ça un peu logique parce qu'avec la maladie qui est dehors, on ne sait pas d'où est-ce que la maladie peut venir. Donc le gouvernement en faisant ça quand même, il essaie de protéger la population camerounaise.
La plus grande préoccupation du gouvernement camerounais est de persuader les habitants de villes souvent surpeuplées de tenir compte de l'appel de changer radicalement leurs habitudes. Ailleurs sur le continent, au Liberia, le marché de Painesville, très fréquenté, était bondé le mercredi 18 mars dernier. Certains commerçants, comme Benedictus Torus, se montraient même sceptiques.
Que le gouvernement soit juste, s'il veut faire quoi que ce soit, il doit nous le dire. Il ne devrait pas utiliser ce virus pour se faire de l'argent. Qu'il soit clair avec les informations, alors nous saurons si nous devons utiliser des méthodes de prévention ou si nous devons continuer comme nous le faisons.
Dans le rue de Monrovia, la capitale, presque personne ne porte de masque alors que certains commerçants en vendent. Florence Théa est une professionnelle de santé. Elle exhorte ses compatriotes libériens à se protéger du Covid-19.
La maladie est déjà présente ici parce qu'à l'époque d'Ebola, la même chose s'est produite et les Libériens ont dit que c'était un mensonge. Ils ont dit que c'était Hélène, l'ancienne présidente Hélène Johnson Sirleaf, qui avait apporté la maladie. La maladie existe donc dans ce pays.
Au début de la crise d'Ebola, les gens avaient accusé le gouvernement d'Ellen Sirleaf Johnson d'avoir inventé cette situation pour obtenir plus de fonds. La faiblesse des systèmes de surveillance et des infrastructures de santé publique ont contribué à la propagation du virus Ebola.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au fur et à mesure que la pandémie de Covid-19 se répand à travers le monde, les systèmes de santé des pays sont mis à rude épreuve, alors que le nombre de décès ne cesse d'augmenter. Pour les familles des victimes, les implications sont multiples. Arzuma Compaoré a recueilli la réaction d'Herman Bouda, enseignant de génie civil dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso, qui vient de perdre son père testé positif au coronavirus.
D'abord, il a commencé par des vomissements. Les vomissements se sont arrêtés et c'est le problème respiratoire qui se posait. Voilà. Donc, c'est dû donc au problème respiratoire que nous sommes partis au dispensaire. Bon, on nous a fait faire des examens où ils ont détecté donc un palu et ils ont essayé de traiter le palu. Alors, on nous a demandé d'aller terminer le traitement à la maison. Arrivé à la maison, bon, ça n'arrête toujours pas. Et donc, nous sommes repartis en clinique. Donc, c'est de là-bas qu'on nous a transférés. On avait une clinique plus spécialisée pour ces problèmes de respiration. De là, lorsque nous sommes arrivés en clinique, il a été mis immédiatement sous oxygène. Et vu les signes que le dispensaire nous avait écrit donc sur le papier de transfert, voilà, ils ont soupçonné une contamination par le coronavirus. Donc, ils ont voulu immédiatement donc nous transférer à l'hôpital Charles de Gaulle et à l'hôpital Tiengano plutôt, pas Charles de Gaulle. L'hôpital nous avait demandé de patienter, que normalement eux ils viennent faire les prélèvements puisque c'était une suspicion d'abord. Donc ils viennent faire le prélèvement pour faire des examens pour confirmer avant de transférer maintenant le malade vers Tengango. C'est ainsi qu'ils ont fait le prélèvement samedi soir. Samedi soir, on nous avait donné 24 heures pour les résultats. C'est le lundi matin que le papa est décédé et on a eu les résultats autour de 9 heures.
Alors, au niveau de la clinique elle-même, quelles sont les observations que vous avez pu faire et quelles sont les consignes qui vous ont été données?
Alors, les médecins sur place ici nous ont dit de, pour le moment, nous ne disposons pas du corps. Ils nous ont dit que normalement, une équipe de Tengango devait venir. Bon, d'abord pour traiter le corps. Ensuite, s'entretenir avec tous ceux qui ont été en contact avec lui. Voilà. Et puis ensuite, ils allaient prendre des décisions ou ils allaient nous faire des recommandations, voilà, pour pouvoir limiter donc la contamination. Nous sommes à peu près à plus de 12 heures, donc jusqu'à présent, ils ne sont toujours pas là. Voilà, nous sommes là dans l'incertitude, on ne sait pas trop est-ce qu'ils vont venir ou pas. Le papa dire qu'il a été en contact avec quelqu'un qui venait de l'Europe ou qui a été en contact avec quelqu'un d'autre qui avait le virus, c'était difficile à dire parce qu'il était fatigué et donc il ne sortait pas de chez lui. On a l'impression que comme il n'y a pas de traitement comme ça, dès que vous avez un malade seulement, bon, à vrai dire, il n'y a rien qui est fait, quoi. Vraiment, là, on a regardé partir à petit feu, quoi. Les médecins, les infirmiers, ils ont peur. Même pour toucher ton malade, c'est tout un problème. En tout cas, bon, nous, on part en confinement. Voilà. Donc, notamment, rester à l'écart de la famille et puis prendre régulièrement la température et au moindre signe d'appeler, quoi. Voici un peu, donc, les conseils qu'ils nous ont donnés. Alors, dès qu'il y a des moindres signes, c'est mieux de se mettre à l'écart pour pouvoir protéger les autres.
C'était Herman Bouda, joint à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Sécurité alimentaire au Cameroun, des inquiétudes sur la qualité des ananas produits et vendus sur le marché local. Certains commerçants et producteurs sont accusés de faire usage du formol pour accélérer la maturité de leurs fruits, une pratique sur laquelle une campagne de sensibilisation est en cours dans l'un des principaux bassins de production d'ananas au Cameroun. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
Jacqueline Kwa, présidente du Conseil national de la consommation, échange avec les vendeurs d'ananas en Colmeyan, une localité de l'arrondissement d'Hawaï à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Yaoundé. Ces vendeurs sont installés en bordure de route. Ici, des milliers d'ananas sont exposés et vendus aux consommateurs de tous bords.
Nous voulons nous assurer que l'ananas, de la production à la commercialisation, ne contient pas des substances qui puissent altérer la santé du consommateur. Nous sommes venus dans ce bassin de production. En plus des producteurs, nous voulons également sensibiliser ceux qui distribuent ce produit, ceux qui le stockent et ceux qui le commercialisent.
De source officielle, près de 200 hectares sont occupés par l'ananas dans le bassin de production d'Hawaï. Mais le fichier des exploitants agricoles n'existe pas ici. La plupart d'ouvriers dans la chaîne de production sont peu qualifiés, ce qui rend difficile leur suivi, surtout ceux qui n'ont pas assez de moyens pour acheter les intrants agricoles. Hervé Mvondo, délégué d'arrondissement d'agriculture d'Hawaï.
Lorsqu'on a peu de moyens, au lieu d'attendre la maturité physiologique du fruit, on brûle les étapes et on fait les dévêtissages très tôt, 130, 140 jours. Et nous, à la fin, nous aurons des fruits qui ne sont pas maturités, avec une couleur blanche et des fruits qui ne seront pas sûrs.
Le Conseil national de la consommation a déjà parcouru 8 régions du Cameroun pour sensibiliser notamment le consommateur à la consommation de produits sains. Proté Atangana est le président des vendeurs d'ananas dans la localité de Colmeyan.
Les dispositions qu'il faut prendre sur ça, ça doit commencer par l'eau, par ceux qui cultivent, ceux qui financent et tous ces groupes-là, jusqu'au plus petit bas niveau, pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Une femme qui est au quartier, elle n'a pas le temps de se poser les questions quand elle va en bourse pour porter les ananas, ou c'est la bonne qualité ou c'est la mauvaise qualité.
Une loi sur la sécurité sanitaire des aliments a pourtant été votée en décembre 2018, mais son décret d'application n'a pas encore été publié. Bernard Ngoumou, ingénieur en sécurité sanitaire et conformité des aliments.
L'utilisation d'un produit chimique pour retarder ou accélérer le mûrissement d'un produit, comme le formol aujourd'hui qui nous amène sur le terrain, c'est un délit. Pour garantir la sécurité de ces ananas, le producteur doit respecter un certain nombre de bonnes pratiques agricoles.
Le ministère du Commerce a initié la procédure de mise en place du label Cameroun qui va permettre d'avoir la traçabilité sur les produits du champ jusqu'à la table du consommateur. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph, à la présentation Abdourahmane Dia et Idrissa Seydouya vous a présenté les dernières informations en début de journal. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.